Bastard, il y a 45 ans, est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers.
Vous écoutez CKRL.
Le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
Bonjour à tous, vous écoutez bien Le Grain de Sable, votre magazine socio-économique dans lequel on parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Vous venez d'entendre notre nouveau thème. Bon, on a eu un début d'intro où on présente Le Grain de Sable et ensuite vous entendez la chanson de Zaz et de Alex Renard. Ça s'appelle « À pas de velours ». Ce sera notre nouveau thème pour les prochaines fois. Aujourd'hui, nous allons vous parler de science et de démocratie. Ce sujet qui a fait l'objet de nombreuses capsules l'hiver dernier. J'avais fait des capsules avec Philippe Camiré, un étudiant en journalisme. On avait eu entre autres Katie Gibbs, qui était porte-parole de l'organisme canadien Death of Evidence, qui est basé en Ontario. On avait aussi fait un vox pop pour connaître l'opinion du public sur le lien entre science et démocratie. Et on avait reçu Binan Vouvan, la présidente de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. Et depuis l'hiver dernier, dans les nouvelles, on a appris qu'en Europe, comme au Canada, la recherche fondamentale est atteinte aussi. Et il y a des scientifiques qui se sont levés. Ils ont fondé une association qui s'appelle « Sauvons la recherche ». Donc aujourd'hui, on va parler avec l'auteur de la préface de la version francophone du livre « The War on Science » qui a été écrit par le journaliste Chris Turner. Ce livre-là est sorti en 2013 dans le Canada anglais et a été publié en 2014, en février, au Québec. Le nom français est beaucoup plus long, je vous le dirai tout à l'heure. On va rejoindre aujourd'hui Yves Gingras, qui est historien et sociologue des sciences à l'UQAM. Et il va nous parler, nous donner une perspective historique sur ce qui se passe actuellement au Canada et ailleurs entre les démocraties et leurs scientifiques. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir deux porte-paroles des Journées québécoises de la solidarité internationale qui vont avoir lieu du 6 au 16 novembre prochain. Puis, on a aussi Étienne qui nous a préparé une petite chronique sur la science et la démocratie. Il va nous parler de l'association aux sciences citoyennes.
Oui, c'est
bien ça. Parfait. Donc, on va commencer en écoutant la chanson « Aux armes » de Mélisse Mel, une chanteuse française. Ça nous semble d'actualité de placer cette chanson-là dans le délire actuel où on voudrait nous mettre sur un pied de guerre interne au Canada. Le refrain de la chanson fait référence au refrain de la Marseillaise.
C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes nos sarcasmes. Aux armes, aux armes, etc. Je veux cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand Ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi. Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi. Nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes, etc. Et la loi triche, l'imposerie des malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. Des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois. Liberté, liberté et chérie. Ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur. Amour sacré de la patrie. Et la fraternité se meurt.
C'était la chanteuse Mélisse Mel. Nous sommes maintenant avec Yves Gingras, qui est rédacteur de la préface du livre « Science, on coupe, chercheur muselé et aveuglement volontaire, bienvenue au Canada » de Stephen Harper, écrit par le journaliste Chris Turner. Monsieur Gingras est historien et sociologue des sciences, il est professeur d'histoire à l'UQAM et il a contribué à la fondation de l'Observatoire des sciences et des technologies. Il est directeur et chercheur du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie et maintenant titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Et depuis 1997, M. Gingras tient une chronique scientifique à l'émission radiophonique Les Années-Lumière sur la première chaîne de Radio-Canada. M. Gingras, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue. Vous avez fait une conférence cet été au Forum social des peuples en compagnie de Katie Gibbs, et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et qu'est-ce que vous faisiez au Forum social des peuples?
Ben, on m'avait demandé de participer justement à une table ronde sur la question, au fond, de la liberté de la recherche.
De la liberté de la recherche, et vous aviez fait ça en compagnie de Katie Gibbs, si je me trompe pas. Hein?
Oui, j'avoue, de mémoire, mais bon, on était trois. Il y avait aussi le président du syndicat des professeurs de l'Université d'Ottawa.
D'accord. Et vous avez donné une petite perspective historique sur les rapports entre le pouvoir et la science hein, depuis plusieurs siècles.
Plusieurs siècles, oui. Bon, je pense que du point de vue historique, c'est toujours bien de rappeler, lorsqu'on parle de liberté académique, tout le travail historique que les acteurs ont fait depuis la création des universités. Et donc, j'ai rappelé, par exemple, qu'au tout début des universités, au Moyen-Âge, il ne faut pas s'imaginer que le Moyen-Âge, c'est une période de noirceur, comme on l'entend souvent en anglais, le « dark ages », c'est absurde. Le Moyen-Âge, c'est la période de création des universités. Et donc, dès le milieu du 13e siècle, on a des auteurs comme Godefroy de Fontaine qui défendent la liberté académique explicitement, face, bien sûr, à l'époque, à l'Église. Donc, ce que j'expliquais, c'est que, alors qu'au milieu du 13e siècle, on peut lire des textes très puissants qui défendent la liberté académique au sein de la faculté des arts, donc de la faculté de philosophie, contre l'Église qui veut limiter le discours du philosophe face à la théologie, ben aujourd'hui, au 21e siècle, ce n'est plus la religion qui nous pose un problème. Ça a été réglé à peu près à compter du milieu du 19e siècle. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'État. Donc, ce sont souvent les gouvernements. Et comme on était au Forum des peuples, et que pour moi, c'est très important de mettre tout le monde sur le même pied, là, et c'est de dire, oui, c'est vrai que c'est les gouvernements, et ici, actuellement, c'est le gouvernement Harper, ce sont les conservateurs, mais c'est aussi beaucoup souvent les groupes de pression. Hein? Faut pas s'imaginer que les groupes de pression sont toujours du bon côté de la barrière, et souvent, les groupes de pression ont pas intérêt à entendre certains discours. On peut penser aux travaux des historiens qui sont souvent remis en cause lorsque les Autochtones ne sont pas contents des conclusions des historiens. Donc, j'ai voulu montrer que la défense de l'autonomie de l'université doit se faire de façon générale face à toutes les tentatives, d'où qu'elles viennent, pour empêcher la liberté de parole.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'esprit des Lumières? Parce que souvent, on a tendance à confondre. Moi-même, la première, j'ai fait des chroniques sur la science et la démocratie. Pour moi, le lien entre démocratie et science est important. Sans la science, on peut difficilement prendre des décisions raisonnées, des décisions basées sur l'évidence. Mais vous avez mentionné que... J'ai écouté une entrevue de Radio-Canada que vous avez faite, puis vous mentionnez qu'on confond souvent les deux à tort.
Oui, c'est... Effectivement, il faut faire attention, c'est que la science, c'est la recherche de la vérité. C'est d'expliquer le monde qui nous entoure, hein, le monde tel qu'il apparaît. Ce monde peut être le monde de l'astronomie, hein, c'est de comprendre, là, par exemple, si on remonte au Moyen-Âge ou même aux Babyloniens, c'est de dire comment la Lune tourne autour de la Terre, à quelle position elle est à chaque temps, qu'est-ce qu'une éclipse? Est-ce qu'une éclipse est un miracle divin, comme on l'a cru longtemps? Les savants se sont dit, ben non, une éclipse, au fond, ça s'explique de façon relativement simple. Hein. C'est soit la Lune qui passe entre le Soleil et la Terre, c'est soit... Donc, on a plusieurs explications mécaniques qui ne font pas intervenir de miracles ou de divinités. C'est ça, la science. C'est la recherche de l'explication de notre monde environnant. Bien sûr, c'est plus dangereux d'expliquer les phénomènes sociaux. Hein. Donc, la sociologie est une science plus dangereuse, parce que si vous montrez... Si vous démontez la rhétorique des gouvernements, si vous démontez les jeux de mots, les sophismes des spin doctors, ça fait plus de dégâts que vous si vous vous contentez d'expliquer l'origine des espèces. Sauf pour les fondamentalistes chrétiens qui sont pas contents d'apprendre que Dieu nous a pas créés en 7 jours il y a 6402 ans le 2 février, mais qu'au contraire, on est le fruit de l'évolution de centaines de millions d'années. Donc, les gens n'aiment pas beaucoup entendre des vérités qui peuvent choquer. Mais la démocratie, c'est autre chose. Et le paradoxe, et sur cette question des relations entre science et démocratie, on oublie souvent qu'un des textes très importants et peu connus sous cet angle-là, c'est le fameux livre de Tocqueville, de la démocratie en Amérique.
Oui.
Tout le monde lit ce livre-là comme une analyse du discours politique américain et de la démocratie américaine comparée, bien sûr, à l'ancien régime, ce qui est vrai. Mais il y a une section très importante et négligée qui explique que la science en démocratie va rencontrer plus de problèmes que la science dans une aristocratie. Parce que faire de la science, ça demande du temps, ça demande de l'indépendance et de la réflexion. Et Tocqueville pense que la démocratie étant le choix de la majorité, et la majorité n'étant pas toujours éclairée, la démocratie va aller plutôt vers la science appliquée que vers la science fondamentale.
Donc, et c'est ce qu'on voit dans nos gouvernements. C'est ce qu'on observe aujourd'hui.
Ben oui, c'est exactement ce qu'on observe, parce que les gouvernements vont dire, oui, la santé, c'est important, donc on va mettre beaucoup d'argent pour la médecine, mais on va en mettre moins pour les questions plus philosophiques, plus fondamentales. Parce qu'entre vous et moi, savoir que l'univers, selon la physique contemporaine, a 14,7 milliards d'années, c'est sûr que ça ne met pas de pain sur votre table. Hein, et ça ne guérit pas le cancer. Sauf que le monde est un monde cultivé dans lequel on doit comprendre l'ensemble de l'univers. Quand Copernic essaie de comprendre pourquoi c'est mieux de mettre le Soleil au centre de l'univers plutôt que la Terre, lui non plus, ça augmente pas le PIB de son pays. Mais on croit que les êtres cultivés, les êtres humains sont les gens rationnels qui veulent comprendre l'ensemble du monde qui l'entoure. Donc, paradoxalement, la démocratie, c'est pas sûr qu'elle est compatible avec la science. Parce qu'au contraire, si l'ensemble des gens veulent croire qu'on a été créé par Dieu et que demain on fait un vote chez les fondamentalistes chrétiens, ils vont voter contre le réchauffement de la planète. Sauf que le réchauffement de la planète, c'est une mesure du taux d'augmentation de la température sur 150 ans, par des thermomètres, entre guillemets, puis par des mesures beaucoup plus sophistiquées. Et donc, science, c'est une chose qui pourrait, dans plusieurs cas, ne pas être compatible avec la démocratie.
Mais au Canada, c'est Robert Borden, qui avait, au début du 20e siècle, inscrit dans la loi qu'on devait prendre des décisions basées sur l'évidence scientifique.
Oui, justement. Ça montre que la science, ultimement, les choses sont compliquées dans la vie de tous les jours, mais globalement, la science, cherchant la vérité, elle est objective. Lorsqu'en Angleterre, au début du siècle, on découvre les électrons, bien, les Chinois découvrent que les électrons, ça existe. C'est pas une question de dire « Ah, ben toi, tu crois aux électrons, moi, j'y crois pas. » On vit actuellement dans un monde très relativiste, où on insiste qu'il faut respecter toutes les cultures. Par exemple, en Chine, c'est une dictature, mais bon, c'est leur culture. Hein? C'est ce que le premier ministre qui arrive de Chine vient de nous dire. Hein? Il faut respecter les cultures. Donc, nous, en science, on dit non, on respecte pas les cultures. On découvre qu'il y a des choses dans le monde, et si vous voulez prendre des décisions politiques rationnelles, vous devez tenir compte des mesures. Un exemple tout récent au Québec, il y a une nouvelle carte des zones inondables. Pourquoi vous pensez que les cartes des zones inondables doivent être faites de façon régulière? Parce que, à cause des réchauffements de la planète, les eaux vont augmenter tranquillement. Et plus les années vont passer, plus on s'aperçoit que l'eau monte. Et qu'elle monte, il y a des zones inondables beaucoup plus grandes. Bien sûr, tous ceux qui ont une maison construite sur le bord des eaux inondables ne veulent pas de la nouvelle carte des eaux inondables, parce que ça fait baisser la valeur de leur maison. Mm-hmm. Là, vous avez un très beau cas de démagogie fondée sur l'économie. Ah ben moi, la valeur de ma maison va baisser, donc je ne veux pas entendre ce que la science me dit sur les zones inondables. On n'est pas obligé d'aller très loin.
C'est ce qui est
arrivé
la semaine dernière.
On peut prendre des phénomènes très simples, comme ceux-là, pour expliquer que la science apporte des informations et que la politique doit les utiliser de façon rationnelle et non pas démagogique.
Vous parlez, là, vous faites référence à ce qui s'est passé à Québec avec le maire Labeaume la semaine dernière, hein? C'est ça, OK. Juste pour être sûr que les auditeurs puissent suivre.
Voyez-vous, c'est très important parce que les gens n'ont pas tendance à mettre ça ensemble. On a mis partout dans les journaux que Labeaume et ceux qui, lui, bien sûr, étant élu par des gens qui ont des maisons sur le bord de l'eau, veut que les ingénieurs de la ville, les ingénieurs du gouvernement, les hydrologues, eux, changent leur conclusion. Mais non, c'est le contraire. Si eux, ils ont des mesures de zones inondables, mesurées et argumentées scientifiquement, ben c'est l'inverse. Il faut que ces maisons-là sachent qu'elles sont en danger et que donc les assurances vont augmenter en conséquence ou ils vont les déménager, et non pas l'inverse.
Mais justement, c'est pas une démonstration d'une certaine forme d'ignorance de la part des gouvernants quand on a ce type de situation-là qui se produit. Vous disiez tout à l'heure que de comprendre le fonctionnement des astres, ça mettait pas du beurre sur la table. Mais comme disait Victor Hugo, quand on ouvre des écoles, on ferme des prisons. Puis ça permet, finalement, le savoir permet justement de prendre des décisions plus éclairées, finalement.
Oui, et c'est tellement vrai, je venais un exemple extraordinaire, OK? On pense, par exemple, qu'étudier les propriétés du soleil, comme on le fait depuis des centaines d'années, depuis le 17e siècle environ, c'est peut-être pas utile. Or, maintenant, on sait que le soleil émet des champs électromagnétiques très, très forts. Et il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être, j'ai oublié la date, là, c'est peut-être une dizaine d'années, il y a eu une grosse panne d'électricité. Pourquoi vous pensez qu'il y avait une panne d'électricité? Parce qu'il y a eu des éruptions solaires immenses. Et lorsqu'il y a une éruption solaire, il y a un champ électromagnétique qui est émis, qui vient perturber les champs électromagnétiques de nos systèmes électriques. Et donc, aujourd'hui, comme partout dans le monde, tous les systèmes électriques tiennent compte de l'intensité des tempêtes magnétiques du Soleil et ajustent la tension sur les lignes de haute tension pour que si la tension est augmentée par ça, ça ne fait pas sauter le système. Donc ça, c'est de la recherche fondamentale au 17e siècle, 19e, 20e siècle, qui aujourd'hui a des conséquences économiques. Donc, comprendre plus le monde qui nous entoure ne peut être que bénéfique lorsqu'on le comprend mécaniquement, non pas par la magie. Il n'y a pas de magie dans la science, il y a de la mécanique. La mécanique compliquée et tous les politiciens, tous les décideurs, au lieu de la démagogie pour plaire à leurs électeurs, devraient leur dire, écoutez, ici, là, on n'a pas le choix, c'est malheureux, mais l'eau monte de quelques centimètres de plus depuis 10 ans, et donc vous êtes en zone inondable, et on ne refera pas la science pour vous faire plaisir et augmenter la valeur de votre maison.
Est-ce que, parce que, en fait, je voulais vous poser des questions sur le lien entre science et démocratie, mais en vous écoutant, ce que je comprends, c'est que finalement, vous faites plutôt le lien entre science et pouvoir.
Oui.
Est-ce qu'on a besoin de science pour avoir une attitude transparente de la part des décideurs?
Non seulement on a besoin, mais si on n'en avait pas, on retomberait dans l'obscurantisme et l'arbitraire. On ne peut pas se contenter de dire des mensonges, comme par exemple, encore tout récemment, vous savez, aux États-Unis, il y a tout un ensemble de scientifiques qui ont écrit une lettre, une pétition pour dire au gouvernement canadien, à travers donc ces porte-paroles du ministère de la Science et du Premier ministre, de cesser de couper dans les subventions scientifiques et dans les emplois scientifiques dans les laboratoires du gouvernement fédéral. La réponse du porte-parole dans les journaux la semaine dernière, c'était de dire « Le gouvernement fédéral a augmenté plus que jamais les investissements en recherche et développement. » Ça, ça a été écrit dans les journaux. Mais ça, c'est un mensonge. Il suffit de vérifier les données de Statistique Canada, donc les données officielles, qui ont été publiées en juin dernier, qui montrent qu'au cours des 5 dernières années, les investissements en recherche et développement au niveau fédéral ont baissé de 14 %. Comment un représentant d'un ministre peut imprimer dans les journaux des phrases qui sont des mensonges alors que des institutions gouvernementales officielles comme Statistique Canada montrent le contraire?
Mais justement, on se demande, est-ce que c'est normal qu'on mente aux citoyens aussi hontément comme ça en démocratie?
Je dirais que non seulement c'est pas normal, mais par contre, une des solutions, ça serait peut-être que les journalistes aient une connaissance un peu plus grande du monde scientifique et se permettent, dans le même article, de dire, nonobstant la déclaration de M. le ministre ou de son porte-parole, rappelons que Statistique Canada a montré le contraire. Or, les journalistes ont tendance, souvent parce qu'ils sont prêts à la dernière minute, de servir de haut-parleur aux décideurs au lieu d'en être la distance critique comme c'est leur fonction fondamentale.
Justement, c'est un autre sujet, là, les médias, mais
Mais qui est inséparable de cette question
exact,
de la démocratie, de la science
ensemble.
Et du pouvoir.
C'est les différents pouvoirs qui sont censés équilibrer, les différents contrepoids qui sont censés équilibrer le pouvoir, puis là, ils sont tous affectés. Même les journalistes scientifiques, là, il y en a qui ont perdu leur emploi, là, parce qu'on a coupé dans ce qui était le plus dans la recherche. On coupe finalement dans la recherche fondamentale, puis dans la science qui aussi environnementale. Là. Mais du côté des médias, on coupe aussi dans l'enquête, puis les journalistes scientifiques.
Exactement. Oui.
Donc finalement, on est en train de s'enlever toutes les ressources qui nous permettent d'avoir un regard éclairé sur l'avenir.
Oui, sans doute.
Est-ce que c'est normal, donc, juste pour parler de ce qui se passe plus spécifiquement au Canada, là, est-ce que c'est normal que les recherches payées par les fonds publics soient pas accessibles aux journalistes et aux citoyens? Normalement, il y avait une accessibilité pour les journalistes de l'information scientifique, mais là, maintenant, c'est plus difficile pour un journaliste d'aller chercher même l'information la plus anodine.
Oui, là, il faut distinguer deux niveaux. Le problème actuellement qui concerne le baïonnage, si on peut dire, des scientifiques, c'est ceux qui travaillent pour le gouvernement fédéral. Donc, c'est ceux qui sont dans des laboratoires fédéraux, qui travaillent, par exemple, pour soit le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, Pêche et Océan, qui font des recherches pour qu'on connaisse effectivement l'environnement du Canada. Eux, comme ils sont à l'emploi du gouvernement fédéral, les conservateurs ont restreint leur droit de parole parce qu'ils veulent contrôler le discours. Mais cela n'affecte pas les chercheurs universitaires, qui, eux, sont indépendants du gouvernement. Donc, la recherche qui se fait partout au Canada est accessible publiquement pour ce qui concerne celle qui se fait dans les universités, mais l'est, de l'avis unanime de tous les journalistes, beaucoup moins depuis quelques années pour les chercheurs qui, eux, travaillent dans les ministères fédéraux.
Est-ce que le gouvernement fédéral peut influencer aussi l'accessibilité des résultats de la recherche universitaire?
Non.
Non.
Non, il peut. Non. Non, parce que les universités sont indépendantes. Indirectement, en un sens, il peut affecter le type de recherche qui va être fait. Parce que c'est
par
lui.
Par le financement, c'est ça?
Exactement. Par le financement, il peut dire, écoutez, je mets moins d'argent en recherche fondamentale, j'en mets plus sur le pétrole. La recherche sur le pétrole, c'est ce qu'il a fait il y a quelques années. Il a dit, ben, quand j'ai de l'argent en recherche, mais on va faire plus de recherche sur les conséquences du développement du pétrole. En voulant dire, effectivement, il faut montrer que ces conséquences-là sont positives. Donc oui, les investissements fédéraux sont orientés depuis une dizaine d'années, beaucoup plus vers les secteurs rentables économiquement que vers la recherche fondamentale. Or, ça, c'est une vue à courte vue qui est fondée sur une ignorance du fonctionnement de la science. Par des exemples très, très simples, lorsqu'aujourd'hui on nous parle de biotechnologie, on fait des millions en biotechnologie, on oublie que si la biotechnologie existe depuis les années 80, c'est parce que 30 ans avant, dans les années 50, dans les universités, on se posait la question, quelle est la constitution de l'ADN? Qu'est-ce que l'ADN, qu'est-ce que le noyau de la cellule? Bien sûr, ça ne servait à rien. Okay? Ou même, pour un exemple beaucoup plus précis, si vous lisez Le Devoir d'aujourd'hui, vous avez vu que toujours en Chine, le premier ministre vient d'aller ouvrir officiellement une filiale d'Hydro-Québec qui est en Chine et qui construit des moteurs électriques. D'où vient ce moteur électrique? Ce moteur électrique vient des recherches au Québec sur la fusion nucléaire au tokamak de Varennes, qui a été construit dans les années 80-90 et qui a été fermé à la fin des années 90 par des coupures fédérales. Donc, bien qu'on travaillait sur la fusion nucléaire, ça l'a permis de faire des découvertes sur le moteur roue qui maintenant sert avec aussi des batteries à ions et à lithium qui sont très d'avant-garde et qui ont été développées chez Hydro-Québec.
Donc
c'était imprévisible il y a 30 ans qu'aujourd'hui, on aurait une compagnie qui va faire 100 millions de ventes en toute probabilité dans les années qui viennent, mais on oublie que c'était possible parce qu'un jour, il y a un physicien qui était à Hydro-Québec qui a travaillé sur le moteur roue.
Donc, c'est pas tant la science qui... La science est difficile de l'empêcher d'exister. Finalement, il y aura toujours des chercheurs qui vont continuer. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, c'est l'accessibilité du savoir qui est menacée plutôt.
Oui, parce que si vous subventionnez pas, c'est beau dire que les gens peuvent faire de la recherche. Vous savez, on est au 21e siècle et le coût de la recherche est beaucoup plus élevé qu'au 20e siècle. Lorsque Einstein, dans son bureau des brevets en 1905, a des idées sur la lumière et la relativité, ça coûte rien. C'est gratis. Il fait ça le soir chez lui. Mais on n'est plus dans ce domaine-là. On est dans un domaine où les universités ont des instruments qui coûtent très, très cher, des accélérateurs de particules, des spectromètres de masse, voyez-vous, des appareils pour justement pour décoder l'ADN, ça coûte des millions de dollars. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire de la recherche sérieuse sans des investissements très élevés.
Monsieur Gingras, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. C'est
le
tout temps
que
nous avions. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Donc, nous, on va partir en pause. Restez avec nous, car ensuite, on va parler des journées québécoises de solidarité internationale avec deux jeunes porte-parole.
C'est plutôt une race psychologique qu'un produit social.
Je crois, oui.
ckrl.qc.ca.
Vous connaissez une personne bénévole ou un organisme communautaire exceptionnel? Dites-lui merci. Présentez sa candidature au prix Hommage Bénévolat Québec d'ici le 6 décembre. Il pourrait recevoir l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Plus d'informations au www.diteluimerci.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents du Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Ce samedi 1er novembre, le Café Babylone présente le quintet vocal a cappella Voice Appeal dans le cadre de la série Cabaret Découverte. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Le 7 novembre, on fête notre 7e anniversaire au Cercle. Tous nos amis, collaborateurs, clients et partenaires sont invités à se joindre à nous pour la plus grande fête de l'année. À partir de 20h, Qualité Motel, Éric Dorion, les danseurs et danseuses de la deuxième porte à gauche, King Abid et Karim Ouellet en DJ set, DJ Texture, Funk Connection, DJ Saint-Michel, DJ Alexandre Sixtopaz Berthier, This Is Not Design et Rémi Barbonne célébreront avec nous. On se voit au Cercle.
Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez
Antitube, le Dominion de 7, un chemin avec Edmond Baudouin, la carte des étoiles, le pas de la porte, Nightcrawler.
Aussi, à ne pas manquer au musée de la civilisation,
l'amour est un crime parfait, aventurier voyageur Pérou, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire.
Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.
89.1. Les chars soviétiques entrent dans Budapest.
Un deuxième char le suit de près?
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux.
CKRL.QC.CA.
Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. L'antenne qui est sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone.
De retour au grain de sable, on est avec Joanie Thériault, qui est porte-parole jeunesse des Journées québécoises de solidarité internationale. Je pensais qu'ils allaient être deux, mais l'autre porte-parole, qui est Jean-Frédéric, était occupé, je crois, qui est à Madagascar, c'est ça que tu me disais?
Non, okay. Désolée. Non, c'est ça, je racontais que, en fait, on est parti à l'été 2013, tous les deux en stage international, dont moi, c'était au Rwanda et lui à Madagascar. Donc, c'est un peu comme ça qu'on en est venu à s'impliquer dans les Journées québécoises de solidarité internationale.
Alors, tu peux nous parler un peu de ces journées, de ces journées-là? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça a lieu? Puis depuis combien de temps ça existe et tout ça?
Oui, ben en fait, ça se passe à tous les mois de novembre, du 6 au 16 novembre, et ça a lieu au Québec depuis maintenant déjà 18 ans. Donc, c'est vraiment les organismes québécois de coopération internationale qui se sont regroupés ensemble dans chaque région du Québec pour avoir une panoplie d'activités qui sont en lien avec la solidarité internationale.
Donc, dans ce temps-là, il y a des ateliers, des conférences, kiosques, événements publics et autres?
Oui, oui, exactement.
Et puis, à Québec, qu'est-ce qui va se passer? C'est du 6 au 16, hein, c'est ça?
Oui.
Donc, on va avoir plusieurs activités. L'ouverture, ça va être avec qui?
L'ouverture, ça va être jeudi le 6 novembre à 20h et ça va être sous forme d'improvisation. Donc, il va y avoir un spectacle d'improvisation avec quelques thèmes de la solidarité internationale. Et il va y avoir moi et la coordinatrice qui est Magali Lefebvre qui va pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce qui va suivre dans la programmation au cours des journées à suivre.
D'accord. Bon, le thème, c'est « Faut se parler d'avenir ». Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? J'ai les enjeux de la jeunesse au nord comme au sud et les initiatives apportées par celle-ci. Ça, c'est votre thème de cette année?
Oui, le thème cette année, c'est vraiment sur la jeunesse. Les jeunes, en fait, représentent les premières personnes qui sont touchées par les enjeux qui secouent le monde. Puis, dans l'avenir, ça va être encore eux qui seront le plus touchés par tous ces enjeux-là. Donc, vraiment, cette année, on met un emphase sur les jeunes. On essaye de plus en plus de faire participer les jeunes aux enjeux, finalement, qui vont les toucher. Et un peu plus tard, je pourrais expliquer plus en détail les enjeux qui sont représentés cette année.
OK, mais vas-y, ne te retiens pas.
Ah, oui, d'accord. Tout d'abord, j'aimerais parler de nos porte-parole nationales, les GQSC, qui sont Mélissa Moline-Dupuis et Widia Larivière. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est qui. Oui. C'est les co-organisatrices du mouvement Idle No More Québec. Puis c'est ça, ils ont été choisis parce que elles sont jeunes. Ils incarnent aussi le mouvement citoyen engagé. Et aussi, ils jouent un rôle clé dans les mouvements sociaux environnementaux qui traversent le Québec et le Canada. Et aussi, le mouvement autochtone, qui est un des sujets assez actuels dans la solidarité internationale. Parce que les Autochtones au nord comme au sud vivent avec des problèmes, des enjeux, que ce soit environnementaux, l'accaparement des terres. Donc, vraiment, on a voulu mettre une voix aux Autochtones spécialement cette année pour dire, ben au nord comme au sud, ils ont encore des problèmes et la lutte est pas finie, en fait.
Donc, c'est vraiment... elles représentent différents aspects des mouvements sociaux actuellement, ces deux jeunes porte-paroles-là.
Oui, donc c'était vraiment un très bon choix, tant qu'à moi.
Les axes et les sujets, les thèmes donc, que vous allez aborder, tu voulais nous en parler un petit peu?
Oui, ben c'est des sujets qui préoccupent de plus en plus les jeunes. Donc, le premier sujet, c'est l'environnement. C'est sûr que ça représente pas juste les jeunes, mais c'est des sujets, disons, qu'on a mis en emphase pour la jeunesse. Et l'environnement, ben je pense que les auditeurs et nous, on sait tous que environnementalement, il y a des changements à faire pour les prochaines décennies qui à venir, et qu'il y a aussi beaucoup de catastrophes, des résultats d'une mauvaise gestion de l'environnement qui se produit présentement. Et ces catastrophes-là ont beaucoup d'impact aux gens du Sud. Donc, c'est important pour nous de pouvoir faire des actions au Nord parce qu'on est ceux qui émettent le plus de pollution. Et c'est dans le Sud qu'ils ont le plus de répercussions. Parce que ils vivent dans des environnements qui sont fragiles, ils sont beaucoup,
ils sont beaucoup... ils sont plus vulnérables.
Vulnérables, exactement. Étant donné qu'ils ont leur terre, ils ont besoin de tout ça pour nourrir, pour avoir leur pain sur la table. Donc, les changements climatiques, ça touche les gens ici du Nord pour des côtés de santé, sécurité et tout, mais également ça touche beaucoup les gens du Sud avec tout ce qui est volet environnemental.
D'accord. Et les autres thèmes?
Les autres thèmes, il y a l'austérité. Il y a beaucoup, beaucoup de coupures des services publics, la privatisation et les hausses des tarifs, électricité, transport, etc., qui vont beaucoup toucher les jeunes ici. On en voit de plus en plus, on est au courant de tout ça. Et ces mesures-là, ils ont eu des catastrophes en Europe, on a pu le voir dans les pays du Maghreb. Donc, c'est quelque chose qui touche de plus en plus les jeunes parce qu'on veut vivre dans un avenir, disons, prospère écologiquement et économiquement, mais d'une façon responsable. Sinon, on va aussi parler des droits humains et de la démocratie. Mais pour, disons, plus laisser le temps pour les gens de découvrir par eux-mêmes la programmation, j'invite les gens à s'informer sur la programmation via notre site internet qui est www.jqsi.qc.ca. Et c'est ça, les activités, je répète, se passent du 6 au 16 novembre. Donc, une panoplie d'activités.
Des sujets très intéressants.
C'est ça, des ateliers.
Est-ce que vous avez des invités particulièrement rares qu'on peut aller entendre pendant ces journées-là? Comme je sais qu'il y avait une entrevue qui avait été faite avec Chico Whittaker, qui est disponible sur le web. Je l'ai partagé sur notre page Facebook hier. C'était pour les journées de solidarité internationale. Est-ce que vous avez des gens qui viennent du Sud cette année qui vont parler plus particulièrement des enjeux Nord-Sud ou...
Oui, ben en fait, il y a beaucoup de programmes de réciprocité qui est fait entre les gens du Sud et du Nord, donc des organismes de coopération internationale qui ont des gens du Sud qui vont être là à ce moment-là et sûrement qui vont pouvoir parler de leur réalité. Là. Ça,
c'est sûr.
Oui, c'est sûr et certain que
parfait.
Ça va être possible.
Merci beaucoup pour ton entrevue, Joannie. J'espère que vous avez passé des belles journées, que ça va se passer comme vous vouliez. Puis nous, on invite les auditeurs à aller voir tous les détails sur votre site web. On va le partager sur notre page Facebook.
Parfait.
Merci.
Merci beaucoup.
I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
C'était la fameuse chanson Waving Flag de Kenan, le chanteur qui a un esprit international et positif. Une chanson qui a été faite en 2010 pour la Coupe du Monde. Étienne Blondeau, bonjour.
Bonjour.
Tu nous as préparé une petite capsule sur le lien entre les citoyens et les scientifiques.
Oui, moi, c'est le sujet de cette semaine qui m'a inspiré parce que je réfléchissais à ça, les coupes faites par le fédéral. Mon intuition, c'est que si Harper fait des coupes dans le genre, dans la science, c'est parce qu'il se dit que la population réagira pas. Et en fait, c'est qu'il fait le pari qu'il va pas avoir un effet politique nuisible sur son parti, sur ses chances d'être élu s'il coupe dans la recherche. Alors, je crois que vraiment la clé pour les scientifiques et pour avoir une science libre et efficace, c'est que les scientifiques puissent se faire connaître du public, nouer des liens avec le public, que, je dirais, le citoyen ordinaire ait une idée de ce que les scientifiques font, de ce qu'ils font pour lui, et de remarquer que le citoyen ordinaire et les scientifiques ont des intérêts en commun, qu'une science en santé, je dirais, une science qui fonctionne et qui est suffisamment financée, ça aide la société en général. Alors, pour nous aider à réfléchir sur ce sujet-là, je me suis dit que je préparerais une petite capsule. Mm-hmm. C'est des extraits d'une émission des Années-Lumière, là, Radio-Canada, qui s'était déroulée le 28 février 2010. C'était une entrevue de Florence Piron par Chantal Srivastava. Et le sujet, c'était les consultations publiques faites par des scientifiques auprès des populations.
Florence Piron, juste pour la présenter, c'est une chercheure anthropologue de formation qui travaille au département de communication de l'Université Laval et qui s'intéresse beaucoup à la recherche-action participative, puis aux questions de démocratie citoyenne et d'implication des citoyennes à la démocratie par la technologie.
Oui, on écoute.
Du tout de dire que les citoyens doivent remplacer les experts ou faire la science à leur place ou leur dire quoi faire. C'est pas du tout de ça dont il est question. Mais la science contemporaine a des effets majeurs sur notre vie à tous, sur la planète, sur la santé, sur l'environnement, la vie quotidienne, la gestion, etc. Elle est financée en grande partie, du moins par les impôts des citoyens. Et il est anormal, dans le fond, qu'il n'y ait pas plus de dialogue, de transparence entre la société civile et le... Il ne s'agit pas du tout de dire que la gestion, etc., elle est financée en grande partie, du moins par les impôts des citoyens. Et il est anormal, dans le fond, qu'il n'y ait pas plus de dialogue, de transparence entre la société civile et le monde scientifique. La science promettait, et dans certains cas continue de le promettre, un monde meilleur. Or, on s'est aperçu que dans certains cas, la science était liée à toutes sortes d'intérêts, surtout quand elle devient technoscience, toutes sortes d'intérêts complexes, sociaux, politiques, économiques, qui font que des précautions n'ont pas été prises et que ça produit des conséquences humaines, sociales, politiques absolument effroyables, alors que la confiance dans la science est fondamentale pour que la science progresse, avance, pour que les chercheurs continuent d'être financés, d'être appuyés par les citoyens, par exemple en sciences sociales. La science sociale empirique ne fonctionne à partir d'entrevues, de rencontres avec des gens. Pour que ces gens-là continuent de participer au projet de recherche, il faut qu'il y ait une confiance dans la science. Ils doivent absolument dialoguer, expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, et être ouverts à la participation des citoyens à ce dialogue. Donc une conférence de consensus, c'est un groupe de personnes, de citoyens qui ne sont pas experts dans le domaine en question, qui travaillent pendant plusieurs mois, mais pas de façon continue, là, à raison de quelques fins de semaine, pour comprendre un domaine, un enjeu. Et une fois qu'ils ont été formés, donc pendant plusieurs mois, c'est une séance publique de dialogue avec des experts. Et ensuite, ils délibèrent pendant quelques heures ou peut-être une journée pour formuler des recommandations consensuelles sur l'enjeu en question. Il y a un autre cas très intéressant qui fonctionne un petit peu de la même façon, mais je trouve pour le Québec, ce serait un exemple tout à fait pertinent. C'est celui du Conseil de citoyens du NICE, National Institute for Clinical Excellence, qui est un centre d'évaluation des technologies en santé. En Angleterre, le conseil du NICE est un conseil permanent formé d'une vingtaine de citoyens, mais qui sont renouvelés régulièrement, là, tous les 3 ans. Et chaque fois qu'il y a une technologie qui est à l'essai, ils sont invités à formuler un avis. Les autorités du NICE, les dirigeants, ceux qui vont formuler les recommandations finales au gouvernement, ne sont pas obligés de tenir compte de l'avis du Conseil des citoyens, mais en général, ce que l'évaluation de tout ça a montré, c'est qu'ils en tiennent compte et que souvent leurs recommandations sont proches de celles du Conseil des citoyens et que ce Conseil-là, les rapports sont d'une très grande qualité, sont en ligne, consultables, et que c'est vraiment un exemple d'une collaboration très réussie. Je prends un exemple au hasard sur l'enfouissement des déchets nucléaires en France. Les scientifiques avaient proposé une stratégie pour enfouir les déchets nucléaires très profondément dans le sol, dans une zone un petit peu désertique, mais où il y avait quand même un peu d'agriculture. Et les agriculteurs ont réfléchi, se sont dit, c'est enfoui profondément, mais ça peut quand même remonter. Et si, dans 20 ans, on trouve une solution pour les détruire, alors qu'ils sont enfouis profondément et diffusés dans le sous-sol, on ne pourra plus les détruire. Trouver une autre solution. Et donc, avec les chercheurs, ils ont imaginé, ils ont aidé à trouver une autre solution, qui est l'enfouissement dans des roches à la surface de la Terre. C'est de faire confiance à l'intelligence collective pour articuler des questions pertinentes. Alors, c'est cette intelligence collective qui peut bousculer les chercheurs, les faire sortir de leur laboratoire, de leur tour d'ivoire aussi, d'une certaine façon, pour les amener à progresser, à aller à avancer, explorer peut-être des zones.
Donc, c'était Florence Piron qui a fondé l'association Aux sciences citoyens, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage qui a le même titre, publié aux presses de l'Université de Montréal.
Ah, pardon, en fait, son organisation, c'est l'association Sciences et biens communs qui œuvre à stimuler l'action pour que la science, en fait, descende de sa tour d'ivoire et aille auprès des citoyens pour couvrir les enjeux qui les intéressent.
OK, donc c'est Sciences et biens communs, c'est ça? Oui. Parfait. Donc, on va aller maintenant avec la chronique sur les activités engagées de la semaine à Québec.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Oui, bonjour. Donc, cette semaine, en fait, en ce moment même, à la place Diauville, il y a une manifestation en appui au peuple kurde. En fait, il y a une population kurde qui résiste à une armée dont vous avez sûrement, certainement entendu parler, des extrémistes qui ont tué beaucoup de gens de toute religion. Donc, il y a une population kurde qui est plutôt démocratique, plutôt pluraliste, qui a tenu le coup, qui a résisté cette armée. Donc, il y a une manifestation mondiale, une journée mondiale aujourd'hui d'appui. Sur la place Diauville, c'est pas mal maintenant, en fait, mais vous avez encore le temps de vous y rendre. Notons que c'est en particulier pour dénoncer les gouvernements qui appuient cette armée, aussi dénoncer les gouvernements occidentaux qui disent vouloir aider, mais l'aide tarde sévèrement. Et aujourd'hui aussi, et demain, c'est le radioton de CKIA, notre station sœur, l'autre radio communautaire à Québec. Donc, je vous invite aussi à porter attention à leur radioton. Maintenant, ce mercredi, le 5 novembre, il y a une manifestation pour les logements sociaux. En fait, c'est quand même assez important, c'est que le fédéral retire les subventions à différentes formes de logement social. Le logement social, ça inclut le modèle coopératif. Hein. Donc, par exemple, il y a 88 coops, ce qui représente 2000 logements sociaux qui vont perdre leur financement, ce qui signifie que les loyers vont augmenter pour beaucoup de moins nantis là, au Québec. Donc, ce mercredi 5 novembre, au Château Frontenac, à midi. Maintenant, aussi, ce mercredi 5 novembre, à partir de 18h30 à la Corrigan, il y a la projection du documentaire Intersection. En fait, c'est sur les réalités des personnes intersexes. Donc, à 18h30, à la Corrigan. Jeudi 6 novembre, on en a entendu parler aujourd'hui, hein, les lancements des Journées québécoises de la solidarité internationale. À 20h, c'est une soirée d'improvisation à l'Université Laval, au pavillon Desjardins. Ensuite, jeudi 6 novembre aussi, à 15h30, il y a l'activité Quoi de neuf dans Saint-Roch. Donc, l'espace Sherpa, qui est en fait au 130 boulevard Charest, que vous connaissez peut-être, c'est le bâtiment aussi qui héberge l'organisme Pêche, un bâtiment très dur à ne pas remarquer, très coloré. C'est organisé par l'Engrenage. Donc, Quoi de neuf dans Saint-Roch, jeudi 6 novembre à 15h30. Vendredi, du vendredi 7 novembre au dimanche 8 novembre, il y a aussi les rendez-vous bio comme dans biologique évidemment à l'Université Laval. Je vous allez tout simplement voir le site réseauforum.org pour avoir les détails sur cet événement. Ensuite, il y a la journée Nord-Sud, que vous connaissez peut-être, c'est quand même la 25e édition de la journée Nord-Sud, samedi prochain, 8 novembre, au Musée de la civilisation, comme toujours, de 10h à 16h. Et évidemment, ça porte, c'est une journée entière d'activités sur la solidarité internationale. Alors, Marie-Christine.
Merci beaucoup, Michael, pour tous ces détails. Donc, on arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais remercier tous nos invités, M. Gingras, M. Yves Gingras, qui est rédacteur de la préface du livre « Science, on coupe », Joannie Thériault, porte-parole jeunesse des Journées québécoises de solidarité internationale, et Étienne Blondeau pour sa capsule sur les liens de confiance à nouer entre le milieu scientifique et le grand public. Et je remercie aussi toute l'équipe qui rend cette émission possible, à la production, Étienne, Michael et moi-même. C'est difficile de se remercier soi-même, hein, mais bon, bref. À la technique, Michael Lessard, qui gère aussi le médiaréseauforum.org. Pour écouter en ligne nos émissions ou pour commenter, visitez notre site legraindesableqc.wordpress.com où vous trouverez aussi un lien vers notre page Facebook. On a bien hâte de lire vos commentaires, suggestions et réactions. Demeurez à l'antenne pour écouter Les Geeks contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts.
Tell me, do you really know your brother man? 'Cause their heart speaks louder than the color can. And why would you even shake a man's hand?
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
89.1.
Le 2 novembre, c'est jour d'élection scolaire au Québec. Vous trouverez l'adresse de votre bureau de vote ainsi que le nom des candidats qui se présentent dans votre circonscription sur la carte de rappel que vous avez reçue par la poste. Les bureaux de vote seront ouverts de 10h à 20h. Parce que l'éducation, c'est l'affaire de tous, le 2 novembre, je vote sans faute. Un message du directeur général des élections du Québec.
Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, des matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 3 novembre, les Jaunes rencontrent les Rouges. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook.
Inni, maman.
Ludo, la lu. Lily, le li.
Oh, merci.
Lucas, le lira.
Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lalectureencadeau.org.
Pourquoi choisir
Matelas Confort? Parce que les prix du fabricant sont les plus bas.
Chez Matelas Confort, vous aurez toujours la meilleure offre, c'est garanti. En tout temps, présentez-nous n'importe quelle offre de la compétition et nous la surpasserons. Pour profiter des meilleurs rapports qualité-prix, rendez-vous chez
Matelas Confort,
1605 boulevard Henri Bourassa.
Alors, est-ce que monsieur a choisi?
Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît.
Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes...
Ah non, excusez.
La bisque de homard, la poutine au foie gras...
Excusez.
La salade d'artichaut...
Mais...
Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout?
Ouais.
Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoir.ca.
Vous êtes fan de tout ce qui est geek? Les Geeks Contre-Attaque commencent maintenant!
En direct des légendaires studios de Limoilou, CKRL présente le Geek Contre-Attaque! Avec Eric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Meur, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau.